quand on prêche, on s'adresse à tout le monde. Or, je me rends compte que ce matin, la prédication ne va concerner très directement qu'une poignée d'entre vous. Mais pour cette poignée-là, elle est fondamentale. Pour cette poignée-là, elle peut tout changer. Et elle peut aussi dessiner, à sa modeste mesure, l'Église de demain. Et qui sait, peut-être que vous faites partie de cette poignée dont je parle. Et ce matin, évidemment, on va parler de l'appel de Dieu. Et plus précisément, on va parler de l'appel spécifique que Dieu pose parfois sur une personne pour un ministère particulier de l'Église. Alors, dit comme ça, ça peut sembler élitiste, hein, comme s'il y avait une poignée de personnes sortant du lot avec un appel de Dieu particulier que les autres n'ont pas. Et bien sûr, c'est pas tout à fait ce que je veux dire. On a tous un appel particulier, parce que tous, nous sommes sel de la terre et lumière du monde, là où le Seigneur nous a placés. Et c'est vous qui l'a placé là où vous êtes, dans votre famille, sur votre lieu de travail, au milieu de personnes qui ont désespérément besoin de Dieu et qui n'ont pour seul évangile que le témoignage de votre vie. Et ça, c'est de très loin la mission la plus noble, c'est la mission la plus grande, c'est la mission la plus importante qui soit. Seulement, il a plu au Seigneur de faire don à l'Église de ministères particuliers. Et donc, effectivement, il appelle en conséquence. C'est pas mieux, c'est pas moins bien, c'est autre chose. Je pense à l'appel missionnaire, je pense au ministère prophétique, je pense à celui d'évangéliste, je pense au ministère pastoral ou encore à celui d'enseignant de l'Église. Or, il se trouve que quand on reçoit un appel de ce genre, ben, on est parfois confus, parce qu'on craint de se tromper, parce qu'on ne se sent pas à la hauteur, parce qu'on a tout un tas d'objections tout à fait légitimes. Alors ce matin, on va débroussailler un peu tout ça, on va voir à quoi ressemble un appel de ce type et comment le discerner sans se tromper. Et pour ça, je vous propose qu'on aille dans le livre de l'Exode, au chapitre 3. Exode, au chapitre 3. Donc au début de vos livres. Et on va voir ici comment Dieu a appelé Moïse à la mission qui était la sienne. On va lire à partir du verset 7 jusqu'au verset 12. Exode 3, verset 7. Le Seigneur dit, « J'ai bien vu l'affliction de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses tyrans. Je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays vers un bon et vaste pays, un pays ruisselant de lait et de miel, là où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amorites, les Périsites, les Hivites et les Jébusites. Maintenant, les cris des Israélites sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que les Égyptiens leur font subir. Maintenant, va. » Je t'envoie auprès du Pharaon. Fais sortir d'Égypte mon peuple, les Israélites. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites? Dieu dit, je serai avec toi. Et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Seigneur, à nouveau, nous te rendons grâce pour ta parole. Nous te prions d'ouvrir grand nos oreilles, nos cœurs, pour que nous puissions l'entendre, la comprendre et agir en conséquence. Amen. Ma conviction, qui est tout à fait discutable et qui n'engage que moi, c'est qu'il y a des gens qui passent à côté de leur appel. Alors, ça n'empêche pas de mener sa vie, de vivre sa vie, ça n'empêche pas même, je crois, de mener une vie heureuse, mais ça crée un gouffre dans l'Église, un vide. Des personnes, littéralement, manquent à l'appel. On parle de crise des vocations, et pour être sincère, j'y crois pas une seconde, parce que la vocation, ça fait référence à l'appel de Dieu. Et c'est pas l'appel qui est en crise. Notre Dieu est un Dieu qui parle, et c'est lui qui bâtit son Église, il ne la laisse pas à l'abandon. Si crise il y a, c'est pas en Dieu qu'il faut la chercher, c'est dans les oreilles bouchées de ceux qui sont appelés. Alors, mon ambition ce matin, c'est pas de rendre la vue aux aveugles, c'est de rendre l'ouïe aux sourds, de rendre l'ouïe à ceux qui, tout de suite, sont en train de se tortiller d'inconfort sur leur chaise parce qu'en fait, ils savent qu'ils sont concernés. Et la première chose que je veux leur dire, c'est ceci. Ton appel ne dépend pas de toi. Ton appel ne dépend pas de toi. Moïse dit, « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon ? Qui suis-je pour délivrer ton peuple ? 40 ans plus tôt, Moïse avait vu un Égyptien frapper un Hébreu et saisi par un sentiment d'injustice, peut-être par un désir déjà en germe de libérer son peuple, il avait tué l'Égyptien. Et en conséquence, loin de libérer qui que ce soit, il avait dû s'enfuir. Et ici, on retrouve 40 ans plus tard, et il semble avoir pris un peu de bouteille. Il a mûri. Ça y est, l'heure est venue de libérer le peuple du joug de l'esclavage. Mais se souvenant peut-être du désastre précédent, Moïse porte maintenant un regard plus lucide sur lui-même. Et donc, il se demande, avec raison, je crois, qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir l'Égypte des Israélites ? En fait, il sait bien mieux qui il est que le jeune blanc-bête qui avait foncé tête baissée 40 ans auparavant. Il sait qu'il n'est pas à la hauteur de la tâche. Qui suis-je ? Quelle est ma qualification pour répondre à cet appel ? Et la première remarque, c'est que Dieu ne répond pas à cette interrogation. Parce que Dieu ne nous appelle pas sur la base de nos qualifications. Quand Dieu a voulu faire avancer la cause des Afro-Américains aux États-Unis, il n'est pas allé chercher le président Eisenhower, il est allé chercher Rosa Parks, la fille d'un charpentier, ça ne s'invente pas. Il est aussi allé chercher un certain Martin Luther King, jeune pasteur baptiste de 26 ans, qui venait tout juste sortir de la fac. Et en fait, ça ne devrait même plus nous étonner. Parce qu'après tout, quand il a voulu répandre la bonne nouvelle dans le monde entier, il n'a pas fait appel à des hommes politiques maniant l'art oratoire, de brillants orateurs, non, il allait chercher des pêcheurs sur le bord du lac de Galilée. Quand il a voulu libérer son peuple du joug de l'esclavage, eh bien, il n'est pas non plus allé chercher un chef de guerre, un benjaminite qui sait manier la fronde. Non, il est allé chercher Moïse, un fils de Lévite, qui est une tribu de prêtres. Il est allé chercher un homme qui a été tenu éloigné pendant 40 ans du peuple qu'il est supposé libérer. Est-ce qu'on peut choisir pire candidat ? Alors, si tu ne te sens pas légitime, pas à la hauteur, pense à eux. Parce que pour toi comme pour eux, ton appel ne dépend pas de tes qualifications. Alors du coup, ça dépend de quoi ? Eh bien, ton appel dépend exclusivement de qui t'envoie. Et c'est pour ça qu'à la question « Qui suis-je pour aller auprès du Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites ?» Dieu répond « Je serai avec toi. Je serai avec toi. » Il ne s'agit pas de qui tu es, mais de qui t'envoie. Et ça, c'est la question sérieuse. Est-ce que c'est bien Dieu qui t'envoie ? Est-ce que c'est bien Dieu qui t'envoie ? Ça, c'est une question sérieuse parce que nul ne peut s'envoyer lui-même. Quand Moïse s'est envoyé lui-même, peut-être un peu précipitamment, tout ce qu'il a réussi à faire, c'est tuer un homme. Et donc, c'est important de ne pas fantasmer un appel qui, en fait, n'existe pas. Ou qui n'existe pas, en tout cas, autrement que dans notre cœur tortueux. Mais comment on fait ? Comment est-ce qu'on discerne l'appel de Dieu sur notre vie ? Alors, Dieu répond à cette question dans le texte qu'on a lu. Voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Vous avez remarqué ? Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. C'est assez inconfortable comme signe. Le signe que Dieu donnera à Moïse n'arrivera qu'après l'accomplissement de la mission pour laquelle il l'appelle. Ce signe, ça ne sera pas une garantie préalable, ça sera une confirmation ultérieure. Alors, je vous livre une petite anecdote, parce qu'en général, ça réveille. Je ne vais pas entrer dans le détail aujourd'hui, mais la façon dont les choses se sont passées entre Anna et moi quand on s'est rencontrés, c'était tellement extraordinaire que quand on s'est mariés, je me suis dit de deux choses l'une. Ou bien tout ça, ça vient du Seigneur, ou bien on est complètement fous. Tous les deux, il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Et vous savez comment je réponds quand on me demande maintenant comment je sais que ça vient du Seigneur ? Eh bien, je réponds qu'on a 3 enfants et 14 ans de mariage. Vous servirez Dieu sur cette montagne, voilà quel sera pour toi le signe. Alors évidemment, j'entends les objections, vous me direz, c'est très bien tout ça, mais enfin, on aimerait bien des signes un peu plus tôt, quoi, hein, des signes plutôt préalables. Et en fait, on en revient à ce que je disais, le problème il n'est pas dans l'appel de Dieu, il est bien plus certainement dans nos oreilles bouchées. On a des signes parce que notre Dieu n'est pas un Dieu muet, notre Dieu parle. Pour Moïse, il ne vous aura pas échappé qu'il a parlé du milieu du buisson ardent. Ça, c'est un signe. Et nous, on a mieux que le buisson ardent. Nous avons l'Esprit Saint. Nous avons Dieu qui vit en nous. Nous avons Dieu qui fait en nous sa demeure. Et notre Dieu est un Dieu qui parle. Donc, le premier signe, je crois, que c'est bien Dieu qui t'envoie, c'est que tu entends son appel. Tu l'entends. Tu l'entends. Cet appel, il brûle en toi. Tu l'entends. Et qu'est-ce qu'il rencontre en toi ? Eh bien, il rencontre tes objections. Qui suis-je pour aller voir Pharaon ? Ça, c'est la première objection de Moïse, mais il y en a d'autres. Exode 4, verset 1, ils ne me croiront jamais. Ils ne vont pas me croire. Je débarque de nulle part 40 ans plus tard. Ils n'écouteront pas. Exode 4, 10, je ne suis pas un homme à la parole facile. Vous rendez compte, 40 ans sorti d'Égypte pour parler égyptien, quand il va y retourner, ça ne va pas être simple. Et même, Exode 4, 13, on voit quelqu'un d'autre. On voit quelqu'un d'autre. Il y a des gens mieux qualifiés. On voit quelqu'un d'autre. Et vous savez quoi ? Je pense que ces objections sont en fait un deuxième signe que c'est bien le Seigneur qui appelle. Non seulement parce que la logique de Dieu défie la logique humaine, qui suis-je, moi, pour que tu m'envoies ? C'est pas logique, ça n'a pas de sens. Il y a bien mieux, il y a bien meilleur. Mais aussi parce qu'on a cette conscience que la tâche nous dépasse, que le costume est bien trop grand pour nous. Et ça, en fait, c'est très bon. Ce sentiment-là, il est bon. En fait, c'est l'inverse qui serait inquiétant. Parce qu'il ne s'agit pas de nous, il s'agit du Seigneur. Et le Seigneur se glorifie dans notre faiblesse. Si tu es à la hauteur de la tâche, bravo, tu vas recevoir des éloges, tu pourras te mettre des médailles sur le revers du costume. Mais si tu te sens tout petit, si tu mesures cet abîme qui existe entre ce que tu es et la tâche à laquelle tu es appelé, tu verras la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu. Alors maintenant, tu es là avec ton appel, mais tout de même, tu doutes. Et honnêtement, tu fais bien. Tu fais bien parce que, je l'ai dit tout à l'heure, le cœur est tortueux par-dessus tout et il est incurable. Qui peut le connaître ? Alors je l'ai dit, mais ce n'est pas moi, c'est Jérémie, le prophète, au chapitre 17, verset 9. Le cœur est tortueux par-dessus tout. Mais toi, tu as un allié dans ton discernement, un allié de poids, et cet allié, c'est l'Église. Évidemment, c'est l'Église. Éphésiens 4, verset 11 et 12, nous dit ceci, Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Donc d'abord, tu es un don de Dieu. Tu es un don de Dieu, tu es un cadeau de Dieu. Et un don qu'il fait à qui ? Eh bien, à l'Église. C'est pour le perfectionnement des saints. Et les saints, ce sont ceux que Dieu a mis à part pour lui, ce sont les croyants. C'est l'Église. C'est pour ça qu'on ne peut pas s'autoproclamer pasteur, qu'on ne peut pas s'autoproclamer prophète, évangéliste ou enseignant. Si notre ministère il est pour l'Église, alors c'est l'Église qui confirme ce ministère. Ça n'aurait pas de sens de dire que je suis pasteur si les brebis elles-mêmes ne me reconnaissent pas. Et c'est pour ça que Paul dit à Timothée au sujet de ceux qui pensent être appelés à un ministère dans l'Église, 1 Timothée 3:10, qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère s'ils sont sans reproche. Donc il y a un discernement de l'Église qui s'exerce, à l'issue duquel elle va reconnaître ou non ton appel. Et je voudrais vous raconter cette autre anecdote, elle me vient du doyen de la faculté de théologie que j'ai étudiée, et je l'aime beaucoup, le doyen et l'anecdote, les deux. Ce doyen, c'était un missionnaire hollandais, il était impressionnant, il faisait plus de 2 mètres. Quand je voulais lui parler, il fallait que je lui tire sur la manche, sinon il ne savait pas que j'étais là. Et c'est vrai, parce qu'en plus, il n'entendait pas trop, donc vraiment, comme je n'ai pas la voix qui porte, si je ne me signalais pas, qui me parle ? Et il nous a raconté un jour en classe comment s'est passé l'entretien avec sa mission qu'il a envoyée avant son envoi en Espagne. J'ai fait mes études en Espagne. Donc, missionnaire hollandais en Espagne. Et la question, pendant cet entretien, était de savoir s'ils allaient l'envoyer ou non. C'était ça l'enjeu. Et les personnes qui étaient chargées de discerner son appel lui ont demandé, Bernard, il s'appelait Bernard, enfin, c'est la version francisée, je pense, mais bon. Bernard, est-ce que tu es certain d'être appelé comme missionnaire en Espagne ? Et il a répondu, non, j'en suis pas certain. Alors ils lui ont dit, mais comment tu veux qu'on t'envoie si toi-même t'es pas certain de ton appel ? Et lui, il a dit, mais comment vous voulez que je sois certain de mon appel si vous ne m'envoyez pas ? Parce que si vous ne m'envoyez pas, j'en fais quoi, moi, de mon appel ? Et vous voyez, le discernement d'un appel, c'est la rencontre entre l'expérience intérieure d'un appel de Dieu. Je crois vraiment que j'ai un appel, je pense que Dieu m'appelle vraiment, et la confirmation de l'Église. Alors ils l'ont envoyé, et après 30 ans sur le champ missionnaire, Bernard est maintenant bien convaincu que c'est effectivement le Seigneur qui l'a envoyé. Et c'est aussi ça, la force du discernement de l'Église. C'est pas juste nous tout seuls dans notre coin, avec notre petite tête et notre cœur tortueux, c'est un discernement communautaire qui s'exerce. Concernant le ministère pastoral, au sein de notre fédération, ce discernement il commence à s'exercer dès les études de théologie. Vous en avez bien aperçu ici, tous ces gens-là. Ce sont des gens qui sont étudiants en théologie. Peut-être que parmi eux, il y a le futur pasteur de cette église ou la future pasteur de cette église. Peut-être aussi que parmi eux, il y en a qui vont s'arrêter en cours de route. Quand vous faites vos études, vous avez un pasteur référent qui suit votre parcours. Puis, vous allez ensuite après les études, je dirais, en faculté, vous avez une année de stage auprès d'un pasteur expérimenté. Et puis après ça, vous avez encore 2 ans de proposana, c'est-à-dire que vous êtes en poste dans une église, mais vous n'êtes pas encore reconnu par la fédération comme pasteur, vous êtes un pasteur proposant. Voilà, on voit comment ça se passe. On pense que ça va bien se passer, mais c'est encore un lieu de discernement. Et c'est seulement à l'issue de ce parcours que vous êtes reconnu comme pasteur de la Fédération Baptiste. Pourquoi ? Parce qu'on vous a éprouvé. Et il est bon qu'il en soit ainsi. Parce que le Seigneur a répandu son esprit sur l'Église et est donc à même de discerner la volonté de Dieu pour ce qui la concerne. Et si c'est toi qui la concerne, fais-lui confiance. Elle saura te le dire. Et si à l'inverse, tu t'es fait des illusions, elle saura aussi te le dire. Mais en tout cas, et je conclue là-dessus, ne fais pas la sourde oreille. Ne fais pas comme si Dieu était resté muet, parce qu'il a parlé, et tu le sais, tu le sais. Alors, t'es pas à la hauteur ? Qu'à cela ne tienne, personne ne l'est. C'est dans ta faiblesse que Dieu sera glorifié. Tu as des objections ? Évidemment, sa logique à lui n'est pas la tienne. Mais toi, parle-lui. Dieu te répondra et te guidera dans les voies qui sont les siennes. Et surtout, surtout, souviens-toi que c'est à l'Église que Dieu te donne et que c'est à elle, à la fin, que revient la tâche de confirmer ton appel. Quant à moi, je te mets au défi aujourd'hui. Je ne sais pas qui tu es, je ne sais pas où tu es, mais je sais que tu es là. Il y a un conseil pastoral dans cette église. Si cette prédication, elle était pour toi, je n'ai pas de doute que le Seigneur t'a déjà mis au courant. Alors, ne laisse pas passer cette semaine sans venir nous en parler. Et maintenant, je te laisse te débrouiller avec ça, parce que ce qui a été semé, a été semé. Je vais prier. Seigneur, d'abord, pardon. Pardon parce que nous sommes sourds à ta voix bien souvent. Pardon parce que nous laissons le bruit ambiant couvrir ta voix. Pardon parce que nous laissons d'autres voix couvrir ta voix. Beaucoup de gens parlent. Beaucoup de gens font du bruit. Mais toi aussi, tu parles. Et je sais que tu parles plus fort que tous les autres. Seigneur, débouche nos oreilles. Débouche en particulier les oreilles de ceux que tu appelles à un ministère particulier dans ton Église. Seigneur, aujourd'hui, c'est leur jour. Aujourd'hui, ils ont entendu. Seigneur, ne laisse pas les soucis du quotidien, les tracas, les distractions, précisément les distraire de cet appel. Qu'il soit pris au sérieux aujourd'hui. Qu'il soit pris au sérieux. Seigneur, je te prie de ne pas les laisser tranquilles cette semaine. Rappelle-toi à tout instant, de différentes manières. Seigneur, comme Jacob, qu'il lutte avec toi si c'est nécessaire. Mais ne les lâche pas, et je sais que tu ne les lâches pas. Seigneur, je te remercie pour toutes celles et tous ceux qui, ce matin, sont inconfortables sur leur chaise, parce qu'ils savent. Toi, tu les connais, moi, je ne les connais pas. Je te prie, Seigneur, pour que, dans le courant de cette semaine, ils fassent cette démarche d'en parler, ou bien à un membre du conseil pastoral, ou bien au moins à quelqu'un de proche qui saura les conseiller, les orienter, les encourager, prier pour eux, les accompagner. Que cet appel qu'ils ont dans le secret du cœur ne reste pas dans le secret de leur cœur. Qu'il éclate au grand jour et que ton Église, Seigneur, puisse cheminer avec eux dans ce processus de discernement. Est-ce bien toi qui appelles ou est-ce que ça naît de leur cœur tortueux ? Seigneur, merci parce que nous ne sommes pas seuls. Merci parce que ton Église est là. Merci parce que ton Saint-Esprit nous accompagne et parce que tous ensemble, nous sommes à même de discerner celles et ceux qui d'entre nous vont te servir d'une manière particulière dans l'Église. Seigneur, que ta voix se fasse entendre.